des livres plein les oreilles. Cette semaine, à l'émission, des rumeurs, des actualités, des articles qui m'ont inspiré dans le choix de livres audio que j'ai envie de vous proposer, bien sûr. Bonjour, je suis Clotilde Seuil et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette émission des livres plein les oreilles. Alors, on va commencer par Picasso, dont on célébrait en 2023 les 50 ans de la mort. Picasso et son œuvre un peu plus élégante. Je dirais que ses propos sur les femmes. Mais j'ai trouvé des livres audio tellement bien faits sur Picasso que je ne pouvais pas ne pas en diffuser des extraits. Picasso, qui avait un grand ami, presque un frère, en la personne de Jean Cocteau, dont on disait qu'il était le prince frivole. Belle occasion d'entendre de nouveau les mots de Cocteau dans la bouche de Simone Signoret. Ça, c'est un moment qu'il ne faut absolument pas manquer. Simone Signoret, dont on n'oublie pas la prestation dans La vie devant soi de Romain Gary, qui existe également en audio. Et puis moi, quand je pense à Signoret, je pense tout de suite à ce film, L'armée des ombres, qui, ô magie, a aussi été enregistré. Quoi d'autre ? Ah oui, Pink ! Je suis tombée par hasard sur l'initiative controversée de la chanteuse Pink, honnêtement que je ne connais pas bien, et j'ai trouvé ça fort intéressant. À un de ses concerts en Floride, elle a distribué à son public floridien des livres censurés par cet État bien pensant. Alors, parmi les livres censurés qu'elle a distribués en veux-tu en voilà à son public, j'ai retenu La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier et La servante écarlate de Margaret Atwood, extrait en vue, bien sûr. Pour finir, quelques nouveautés qui s'écoutent bien, dont Le docteur Jivago. Alors oui, quand je dis nouveauté, on s'entend bien qu'il s'agit en audio, parce que c'est vieux comme le monde, cette œuvre célèbre de Boris Pasternak, qui s'écoute maintenant depuis le mois de septembre dernier. Allez, c'est parti. Alors, 2023 a marqué les 50 ans de la mort de Picasso, génie sans nul doute, mais aussi point de suspension. Bon, on commence par le début. Picasso, fils de peintre, né en 1881, co-créateur du cubisme, avant-gardiste, artiste peintre, mais pas seulement peintre. Hein. Il a fait aussi des estampes, des sculptures, des céramiques. On calcule que c'est à peu près 20 000 œuvres qu'il aurait créées au cours de son existence, Pablo Picasso. Record de prix de vente d'une de ses œuvres en 2015, c'est pas vieux ça, Les Femmes d'Alger, a été vendue aux États-Unis 195,8 millions de dollars. Picasso qui a même fait l'objet de films, on pense notamment au Mystère Picasso de Clouzot, qui a obtenu le prix spécial du jury de Cannes en 1956. Et puis, le saviez-vous, l'an dernier, pour célébrer ses 50 ans, les 50 ans de sa mort, il n'y a pas eu moins de 42 expositions Picasso en Europe. Mais il y a 8 musées qui présentent des expos permanentes de ses œuvres. 8 musées. Barcelone, bien sûr, mais aussi Antibes en France ou encore Münster en Allemagne. Bref, de quoi remplir des pages et des pages de livres. Je vous propose un extrait de Picasso, le sage et le fou, de Marie-Laure Bernadac et Paul Dubouchet, narrateur François Dunoyer.
Un soir, Don José laisse à son fils une grande nature morte à achever. Il trouve à son retour les pigeons entièrement terminés, et leurs pattes sont si vivantes que Don José, tout ému, donne brusquement à Pablo sa palette, ses brosses et ses couleurs, se disant que le talent de son fils est plus grand que le sien et que, désormais, il ne peindra plus. Cette passation de pinceau du père à son fils est beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Elle rappelle, étrangement, une autre passation que tout garçon espagnol connaît et qui revêt pour lui une portée extrême, celle qu'on appelle l'alternative. C'est-à-dire le moment où l'apprenti torero devient un vrai matador, capable de tuer son taureau. Pablo connaît la corrida depuis à peu près aussi longtemps que les pigeons. Don José y a amené son fils dès son plus jeune âge. Et il lui a transmis sa passion pour l'arène éclatante, vibrante, pour le taureau sauvage et fumant, pour le sang rouge qui prend une si extraordinaire couleur sur le noir velouté du taureau, pour les « olé » hurlés, pour les éventails qui sont comme les ailes de la foule et pour le corps cambré du toréador dans la lumière. En 1891, Don José accepte un poste de professeur de dessin à La Corogne, tout au nord de l'Espagne, sur la côte ouest. En plus de Pablo, la famille compte maintenant deux petites filles, Concepción et Lola. À La Corogne, le temps est gris. L'Atlantique est froid, il souffle un vent de brume et de pluie qui éteint toute lumière. Dès qu'il a vu La Corogne, Don José a décidé qu'il haïssait cette ville. Pour Pablo, ce déménagement au nord a un effet bien différent. Ils habitent juste en face de l'école d'art où enseigne son père. Et Pablo n'a que la rue à traverser pour aller dessiner, peindre, essayer toutes les techniques que son père enseigne à ses élèves. Il dessine tellement qu'il maîtrise en très peu de temps la technique du dessin au fusain, qui permet de modeler l'ombre et la lumière. Mais il n'apprend rien à l'école. À 11 ans passés, même les rudiments les plus élémentaires comme la lecture, l'écriture et le calcul lui donnent beaucoup de difficultés. Et le jour décisif où Pablo doit passer son certificat, force lui est de répondre à l'examinateur qu'il ne sait rien. Vraiment rien, non. Comme le monsieur est gentil et compréhensif, il trace sur le tableau les colonnes de chiffres que Pablo aurait dû tracer sur sa feuille et lui demande gentiment, au moins, de les copier. Cela, Pablo sait faire. Il copie trait pour trait les chiffres du tableau. Il copie parfaitement, c'est même beaucoup plus joli que ce qu'a fait l'examinateur. Pablo est content, pense à la fierté de ses parents, au pinceau qu'il aura en récompense. Mais ensuite, il faut additionner, tracer une barre et mettre quelque chose en dessous. Heureusement, le maître a écrit le total sur son buvard. Et Pablo recopie les chiffres à l'envers.
Pour tout savoir sur Picasso, le sage et le fou dont vous venez d'entendre un extrait, s'il fallait que Picasso soit encore de ce monde, il n'y a pas de doute qu'il serait crucifié à l'autel de MeToo. Les témoignages de femmes qui ont été ses victimes sont absolument effrayants. La propre petite fille de Picasso a écrit un bouquin qui s'appelle « Picasso, mon grand-père », qui n'existe pas en audio, je vous le dis tout de suite, dans lequel on trouve cet extrait. En parlant de ces femmes, il les soumettait à sa sexualité animale, les apprivoisait, les envoûtait, les ingurgitait et les écrasait sur sa toile. Après avoir passé de nombreuses nuits à extraire leur essence, une fois vidée de leur sang, il s'en débarrassait. Ses partenaires ont même souvent évoqué que ces muses dont ils s'amusaient ont vécu de véritables déconstructions de leur corps et de leur âme, à l'image même d'ailleurs des femmes déconstruites et disloquées dans l'œuvre même de Picasso. Entre les années 31 et 33, on parle de 1931 à 1933, Picasso a même publié plusieurs dessins et toiles intitulés « Le viol ». On y voit des corps entremêlés. Ces scènes de viol me mettent souvent mal à l'aise, reconnaît Laurence Madeline, qui s'interroge alors qu'elle était en pleine préparation d'une exposition sur le peintre espagnol. Mais bon, 50 ans après sa mort, Pablo Picasso reste un génie de la création et de la peinture, reste aussi un inépuisable sujet de fascination. Il semble même que son œuvre gagne toujours en popularité et qu'on n'a pas fini de parler de lui tant que cette planète va tourner sur elle-même, même si elle ne tourne pas tous les jours très rond.
On habite tous les deux sur le même palier. Et cette année, on a un gros projet. Rénover la cour intérieure très moche de notre immeuble et la transformer en un endroit sympa où les voisins pourront se retrouver après le boulot pour papoter, boire un verre, jouer à des jeux de société, partager des soirées barbecue. Faire des trucs ensemble, quoi.
Super idée.
Comme thème déco, on a choisi l'Espagne. Pour les couleurs, le soleil et l'ambiance fiesta. Ensuite, on s'est dit que ce serait cool de graffer une fresque sur les murs. Donc on a cherché sur Internet un artiste espagnol qui pourrait nous inspirer. On a tapé « Top 10 peintre espagnol » dans la barre de recherche. Et le premier résultat qui est apparu, C'est le nom de Pablo Picasso.
Ah bah oui, Picasso !
On s'était crié. On connaissait son nom, mais on était incapable de dire ce qu'il avait créé, à part des tableaux hyper modernes et bizarres. La première image qui nous venait à l'esprit quand on pensait Picasso, c'était celle d'un monospace en forme de suppositoire. Hashtag un culte de base. Donc on a regardé des tas de vidéos sur lui, visité des dizaines de sites où on parle de ses œuvres et même emprunté des livres à la médiathèque. Et là, gros choc artistique. On est passé de « qu'est-ce qu'il a peint déjà ?» à « il est génial ce mec-là !» C'est incroyable! Il a créé plus de 60 000 œuvres en 80 ans. Il a tout osé en art, tout explosé et tout expérimenté. Collage, poésie, gravure, costume, théâtre, poterie, céramique, dessin, sculpture, installation, peinture.
Mais quel génie!
Ça, ça s'appelle 100% bio, Picasso vu par une ado. C'est écrit par Cécile Aix, lu par Amandine Langeac. Si des fois vous avez des ados qui s'intéressent à l'œuvre et à la vie de Picasso, eh bien je vous recommande ce livre audio-là. On s'en va tout de suite sur autre chose. Picasso et Jean Cocteau étaient très, très, très amis. C'est une amitié qui s'est notamment scellée sur la création d'un ballet qui s'appelait Parade. C'était Eric Satie qui avait mis cela en musique. Et cette amitié-là donne lieu à un livre qui vient de sortir, mais qui n'est pas non plus encore enregistré en audio. Qui est un livre sur l'amitié entre ces deux-là, qui oscille toujours sur fond de rivalité entre poète et peinture. Cocteau, qui lui se console dans l'opium, et puis il renaît. Picasso, lui, c'est plutôt dans la sexualité, et il renaît aussi. L'auteur de ce livre-là les appelle gentiment Laurel et Hardy. Ce qui m'amène à Jean Cocteau plus maintenant qu'à Picasso que je laisse derrière nous. Jean Cocteau, pourquoi lui ? Eh bien parce que j'ai trouvé pour vous en livre audio une scène absolument déchirante, extraite de La voix humaine. Une femme, après quelques tentatives infructueuses, finit par joindre son amant au téléphone. Elle l'appelle encore chérie, mais doit lui rendre leur lettre et se montrer courageuse parce que lui l'a quittée pour une autre. Et à travers les non-dits, un moyen de communication très, très défaillant, vous allez l'entendre, la communication s'interrompt sans cesse. Cette femme aime toujours cet homme à qui elle parle. Elle fait semblant de rien, elle fait semblant de ne pas souffrir, sauf qu'elle a tenté de se suicider. Et écoutez bien, essayez de rester de marbre devant cette interprétation. C'est lu, cet extrait de La voix humaine de Cocteau, par Simone Signoret. Le micro était installé chez elle en 64, dans sa chambre. La comédienne l'a voulu ainsi. Elle était installée sur son lit et elle a tenu à tenir son propre téléphone à la main et il n'y a eu qu'une seule prise.
Je comprends. Non, moi, je t'excuse pas. C'est très naturel et c'est moi qui suis stupide. T'es gentil. Moi non plus, je me croyais pas si forte. Oh, faut pas m'admirer. Je bouge un peu comme une somnambule. Je m'habille, je sors, je rentre machinalement. Je serai peut-être moins brave demain. Toi ? Non. Mon chéri, j'ai pas l'ombre d'un reproche à te faire. Je me laisse. Comment ? Très naturel. Au contraire. Il a toujours été convenu que nous agirions avec franchise et j'aurais trouvé criminel que tu me laisses sans rien savoir jusqu'à la dernière minute. Le coup aurait été trop brutal, tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer, de comprendre. Quelqu'un m'a dit. Allô? Qui? Que je te joue la comédie, moi? Tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Mais pas du tout. Pas du tout. Très calme. Tu l'entendrais? Je dis, tu l'entendrais. J'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Permis, mais c'était pas pareil. Ben, c'est possible, mais on a beau se douter, s'attendre au malheur, on tombe toujours à la renverse. Oh, n'exagère pas. J'ai tout de même eu le temps de m'habituer. Tu avais pris soin de me dorloter, de m'endormir. Mais notre amour marchait contre trop de choses. Il fallait résister, refuser 50 bonheurs ou accepter les risques. J'ai jamais pensé que la vie s'arrangerait. Je paye cher une joie sans prix. Allô? Je dis sans prix. Je ne regrette. Je regrette rien, rien, rien. Tu te trompes. Tu te trompes, j'ai... Allô? J'ai ce que je mérite. J'ai voulu être folle et avoir un bonheur fou. J'ai... Écoute. Allô? Chérie. Laisse. Allô?
Fou. Une prise. Il semblerait que l'ingénieur du son était en larmes complètement après cette prise-là. Simone Signoret aussi, qui a refusé d'écouter l'enregistrement. Il a fallu l'intervention de son mari, Yves Montand, pour qu'elle accepte que ce disque soit publié. Et il a obtenu à ce moment-là le grand prix du disque en 1964. Pour l'écouter, vous allez sur Audible. Ils ont cet enregistrement-là en exclusivité, la voix humaine de Jean Cocteau, lue par Simone Signoret. Ça dure 48 minutes. Vous en avez eu 3 minutes 36 pour vous faire une petite idée de la force de la comédienne qui était Simone Signoret. Vous êtes peut-être un peu jeune pour savoir qui elle était. Merveilleuse comédienne, très très belle femme, rapidement maganée par l'alcool et par le chagrin aussi. Elle a été une jeune première et très, très rapidement, elle est devenue la comédienne mémorable de certains films. Quand elle a été un petit peu plus âgée, des films comme Le Chat avec Jean Gabin, mais aussi La vie devant soi de Romain Gary. Hein, vous savez, l'histoire de cette femme qui recueille les jeunes paumés du quartier, de toutes origines et de toutes religions. La vie devant soi existe en audio. Alors vous me voyez venir, oui bien sûr, on va en écouter un extrait, on ne va pas entendre. C'est Bernadette Lafont dans ce livre qui joue le rôle que tenait Simone Signoret dans le livre La vie devant soi, mais on va entendre parler le petit garçon qui est le personnage aussi principal dans ce livre-là, qui est recueilli par cette femme gauche, maladroite, souffrante, vieille, qui a l'air très bourru comme ça, mais qui est finalement la seule à avoir du cœur pour recueillir tous ces gamins de la rue. Alors, écoutons un extrait de La vie devant soi de Romain Gary. C'est parti.
Il y avait chez nous pas mal de mères qui venaient une ou deux fois par semaine, mais c'était toujours pour les autres. Nous étions presque tous des enfants de pute chez Madame Rosa. Et quand elle partait plusieurs mois en province pour se défendre là-bas, elle venait voir leur môme avant et après. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des ennuis avec ma mère. Il me semblait que tout le monde en avait une, sauf moi. J'ai commencé à avoir des crampes d'estomac et des convulsions pour la faire venir. Il y avait sur le trottoir d'en face un môme qui avait un ballon et qui m'avait dit que sa mère venait toujours quand il avait mal au ventre. J'ai eu mal au ventre, mais ça n'a rien donné. Et ensuite, j'ai eu des convulsions. Pour rien aussi. J'ai même chié partout dans l'appartement pour plus de remarques. Rien. Ma mère n'est pas venue et Madame Rosa m'a traité de cul d'arabe pour la première fois. Je lui hurlais que je voulais voir ma mère et pendant des semaines, j'ai continué à chier partout pour me venger. Madame Rosa a fini par me dire que si je continuais, c'était l'assistance publique. Et là, j'ai eu peur. Parce que l'assistance publique, c'est la première chose qu'on apprend aux enfants. J'ai continué à chier pour le principe, mais ce n'était pas une vie. On était alors 7 enfants de pute en pension chez Madame Rosa. Et ils se sont tous mis à chier à qui mieux, car il n'y a rien de plus conformiste que les mômes. Et il y avait tant de caca partout que je passais inaperçu là-dedans. Madame Rosa était déjà vieille et fatiguée même sans ça, et elle le prenait très mal, parce qu'elle avait déjà été persécutée comme juive. Elle grimpait ses 6 étages plusieurs fois par jour avec ses 95 kilos et ses 2 pauvres jambes. Et quand elle entrait et qu'elle sentait le caca, elle se laissait tomber avec tous ses paquets dans son fauteuil et elle se mettait à pleurer. Car il faut la comprendre. Les Français sont 50 millions d'habitants et elle disait que s'ils avaient tous fait comme nous, même les Allemands n'auraient pas résisté. Ils auraient foutu le camp. Madame Rosa avait bien connu l'Allemagne pendant la guerre, mais elle en était revenue. Elle entrait, elle sentait le caca et elle se mettait à gueuler. « C'est Auschwitz ! C'est Auschwitz !» Car elle avait été déportée à Auschwitz pour les Juifs. Mais elle était toujours très correcte sur le plan raciste. Par exemple, il y avait chez nous un petit Moïse qu'elle traitait de salbico, mais jamais moi. Je me rendais pas compte à l'époque que malgré son poids, elle avait de la délicatesse. J'ai finalement laissé tomber parce que ça ne donnait rien et ma mère ne venait pas. Mais j'ai continué à avoir des crampes et des convulsions pendant longtemps. Et même maintenant, ça me fait parfois mal au ventre.
Ah là 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 là, revoir toutes ces images-là, je ne sais pas, peut-être aviez-vous lu le livre « La vie devant soi », peut-être aviez-vous vu le film, moi, de revoir Simone Signoret en Madame Rosa, c'est ça, maladroite, qui monte je ne sais plus combien d'étages tous les jours, plusieurs fois, avec ses paquets, puis avec ses mômes dans les pattes comme ça, c'est vrai qu'ils chient dans la maison, simplement, parce qu'ils ont l'impression que leur mère va venir les voir. Et en tout cas, merveilleux Simone Signoret. Il y a aussi un autre film qui m'avait marqué avec elle, c'est L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, c'est vraiment l'image de la résistance dans tout ce qu'elle avait de plus ténébreuse et de plus glorieuse, film de Jean-Pierre Melville qui était sorti en 69 d'après un roman de Joseph Kessel, voilà. Je vais vous en proposer un extrait, c'est le tout début, alors qu'on fait connaissance avec Gerbier, qui était interprété par Lino Ventura dans le film. Gerbier vient de se faire arrêter par la police de Vichy, collaboratrice avec les Allemands, notamment contre l'armée des ombres, autrement dit contre la résistance, née notamment dans le Limousin, le centre de la France. Alors Gerbier ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas ce qui arrive. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il est dans une voiture conduite par un flic, par un policier français, et qu'il s'en va. Mais il s'en va où ? C'est ce qu'on va apprendre.
La France n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout, elle n'a plus de loi. La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée sont devenues devoirs envers la patrie. Le héros national, c'est le clandestin. C'est l'homme dans l'illégalité. Plus rien n'est valable de l'ordre imposé par l'ennemi et par le maréchal. Plus rien ne compte. Plus rien n'est vrai. On change de domicile, de nom, chaque jour. Des fonctionnaires, des policiers aident les insoumis. On trouve des complices jusque dans les ministères. Prison, évasion, torture, attentats, coups de main, on meurt et on tue avec naturel. La France vivante, saignante, est toute dans les profondeurs. C'est vers l'ombre qu'elle tourne son visage inconnu et vrai. Peuple qui, dans les catacombes de la révolte, forme sa lumière et trouve sa propre loi. Jamais la France n'a fait guère plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Tout ce qu'on va lire ici a été vécu par des gens de France. Mon seul souhait et de ne pas avoir rendu avec trop d'infidélité leur image. Chapitre 1. L'évasion. Il pleuvait. La voiture cellulaire montait et descendait lentement la route glissante qui suivait les courbes des collines. Gerbier était seul à l'intérieur de la voiture avec un gendarme. Un autre gendarme conduisait. Celui qui gardait Gerbier avait des joues de paysan et l'odeur assez forte. Comme la voiture s'engageait dans un chemin de traverse, ce gendarme observa « On fait un petit détour, mais vous n'êtes pas pressé, je pense. »« Vraiment pas, » dit Gerbier avec un demi-sourire. La voiture cellulaire s'arrêta devant une ferme isolée. Gerbier ne voyait, par la lucarne grillagée, qu'un bout de ciel et de champs. Il entendit le conducteur quitter son siège. « Ce ne sera pas long, » dit le gendarme. « Mon collègue va prendre quelques provisions. Il faut se débrouiller comme on peut par ces temps de misère. »« C'est tout naturel, » dit Gerbier. Le gendarme considéra son prisonnier en hochant la tête. Il était bien habillé, cet homme, et il avait la voix franche, la mine avenante. Quel temps de misère! Ce n'était pas le premier à qui le gendarme était gêné de voir des menottes. « Vous ne serez pas mal dans ce camp-là, » dit le gendarme. « Oh, je ne parle pas de la nourriture, bien sûr. Avant la guerre, les chiens n'en auraient pas voulu. Mais pour le reste, c'est le meilleur camp de concentration qui soit en France, à ce qu'on assure. C'est le camp des Allemands. »« Je ne comprends pas très bien, » dit Gerbier. « Pendant la drôle de guerre, on s'attendait, je pense, à faire beaucoup de prisonniers, » expliqua le gendarme. On a installé un grand centre pour eux dans le pays. Naturellement, il n'en est pas venu un seul. Mais aujourd'hui, ça rend bien service. En somme, une vraie chance, remarqua Gerbier. Comme vous dites, monsieur, comme vous dites, s'écria le gendarme. Le conducteur remonta sur son siège. La voiture cellulaire se remit en route. La pluie continuait de tomber sur la campagne limousine.
Voilà, extrait de L'Armée des Ombres de Joseph Kessel, lu par Samuel Labarthe. Je m'appelle Clotilde Say, vous écoutez Des livres plein les oreilles, le magazine hebdo du livre audio produit par Canal M. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Soyez de nouveau les bienvenus, que vous nous écoutiez via CKVL ou encore en podcast ou encore bien sûr via Canal M qui produit cette émission, que ce soit sur notre site web ou encore sur votre télévision. Alors, en seconde partie, Pink, oui, Pink, la chanteuse, peut-être très très fière, j'espère qu'elle l'est, moi en tout cas je trouve ça formidable, fière de quoi? Eh bien, quand elle a balancé au public, à la fin d'un concert, d'ailleurs de plusieurs concerts qu'elle a donné en Floride, elle a balancé à son public des bouquins qui sont censurés par la Floride. Et parmi ceux-là, écoutez, là, il y en avait plein qui sont... Je pense qu'il y en a 300 qui sont censurés à peu près en Floride pour toutes sortes de raisons, trop de sexe, trop de noir, trop de ceci et cela. Alors, il y a, entre autres, parmi ces livres, La jeune fille à la perle et l'œuvre de Margaret Atwood, La servante écarlate. Alors, on va bien sûr écouter des extraits de cela. Et pour finir, du neuf et du moins neuf, mais nouvellement adapté en livre audio, comme par exemple des extraits de « La prochaine fois que tu mordras la poussière », un livre dur mais un livre superbe, et « Le docteur Jivago ». Mais oui. Et on commence, vous savez par quoi? Hein? Qui aurait dit qu'un jour j'aurais diffusé du Pink à l'émission « Des livres plein les oreilles » Eh bien oui, et j'en suis contente. God bless you and God bless America. La 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 la
searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us?
Elle s'appelle Pink. Ne me demandez pas le nom de la chanson, j'ai oublié de la noter et je m'en excuse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces 300 livres qui ont été retirés du programme scolaire. C'est ce que nous apprend PEN America dans un communiqué en Floride. Parmi ces livres, Beloved de Toni Morrison, A Game of Thrones de George R. R. Martin, Dune de Frank Herbert, La Servante écarlate de Margaret Atwood ou La Jeune Fille à la Perle de Tracy Chevalier. Alors, qu'ont-ils en commun? Eh bien, d'après les bien-pensants de la Floride, ces textes évoquent un petit peu trop la question de la race et du racisme, ou alors d'autres sont écrits par des personnes issues de la communauté LGBT+, mon Dieu, quelle horreur, et alors que d'autres parlent de sexe ou de la question de genre, bref, 300 bouquins ont été retirés du programme scolaire. Et Pink, là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, cette femme est une, au-delà du fait que c'est une chanteuse mondialement connue, elle est amatrice de littérature. Elle est aussi la maman d'une petite fille et elle a souhaité s'engager dans la lutte contre cette censure. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour marquer le coup? Elle a décidé de distribuer 2000 exemplaires de ses livres à son public. Elle a dit, très heureuse d'avoir lancé cette discussion sur la censure et l'interdiction des livres. « Je distribuerai plus de livres encore ce soir », donc elle parlait d'un autre show, toujours en Floride. « Je continuerai de parler de ce projet et de ce sujet. Les conservateurs peuvent bien parler de ma vie personnelle puisqu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à raconter. Passez une belle journée libre de penser et lisez ces livres censurés. » Ou encore, j'ai envie d'ajouter, écoutez-les. Je vous propose un extrait de La Jeune Fille à la Perle, qui fait partie de ces 300 censurés dans les écoles floridiennes. Nous sommes aux Pays-Bas en 1664 avec Grit. Elle a 16 ans, sa famille n'a jamais été riche et depuis peu, elle est tombée dans la pauvreté. Le père qui fabriquait des carreaux de faïence est devenu aveugle après l'explosion d'un four. Il n'a plus de travail, alors c'est décidé, on enverra la gamine de 16 ans. Elle sera placée comme servante chez un peintre dont on parle beaucoup à Delft, Johannes Vermeer. Alors là, évidemment, elle va découvrir un milieu relativement hostile. Elle est littéralement harcelée par l'épouse de Vermeer, qui est très acariâtre. Et puis, il y a aussi là-dedans une enfant fourbe et méchante, une servante hargneuse. Bref, elle l'aura pas facile, sauf qu'elle va découvrir cet univers qu'elle ignorait et qui va l'éblouir littéralement. Elle va découvrir la peinture de Vermeer. Et une relation tout en demi-teinte va s'établir entre l'homme, le peintre et cette jeune fille, relation à la fois troublante et douloureuse. Voici un extrait, c'est le tout début de La Jeune Fille à la Perle.
Que faisiez-vous là, Grit ? Demanda-t-il. Sa question me surprit, mais je n'en laissais rien paraître. Je coupais des légumes pour la soupe, monsieur. J'avais l'habitude de disposer les légumes en cercle, par catégorie, comme les parts d'une tarte. Il y avait 5 parts. Choux rouges, oignons, poireaux, carottes et navets. Je m'étais servi d'une lame de couteau pour délimiter chaque part et j'avais placé une rondelle de carottes au centre. L'homme tapota sur la table. « Est-ce dans cet ordre qu'ils iront dans la soupe ?» me demanda-t-il en étudiant le cercle. Non, monsieur. J'hésitais. Je n'aurais pu expliquer pour quelle raison je les avais arrangés de la sorte. Je m'étais dit que ça devrait être comme ça, un point c'est tout. Mais j'avais trop peur d'avouer ça à un monsieur. Je vois que vous avez mis de côté les légumes blancs, reprit-il en montrant les navets et les oignons. Tiens, ceux de couleur orange ne voisinent pas avec ceux de couleur pourpre, pourquoi ça ? Il ramassa une tranche de chou et un bout de carotte, les secoua dans sa main comme des dés. « Assez bavardé comme ça, déclara la femme. Si agacée fut-elle par l'attention qu'il me portait, c'est moi qu'elle fustigea du regard. Nous disons donc à demain ?» Elle se tourna vers l'homme avant de sortir majestueusement de la pièce, suivie par ma mère. L'homme jeta un dernier coup d'œil à ce qui devait être la soupe, puis il me salua de la tête et suivit les femmes. Lorsque ma mère revint, j'étais assise à côté du cercle que formaient les légumes. J'attendis qu'elle parle. Bien que nous fûmes en été et qu'il fît chaud à la cuisine, elle était recroquevillée sur elle-même comme pour se garantir des frimas. « Tu entreras demain à leur service. S'ils sont contents de toi, tu gagneras 8 florins par jour. Tu logeras chez eux. » Je gardai le silence. « Voyons, Grit, ne me regarde pas comme ça, » poursuivit ma mère. « Il le faut, maintenant que ton père a perdu son travail. »« Où habite-t-il ? » ?»« À l'angle de l'Oudelangendischk et de Molenport. »« Tu veux dire le coin des papistes ? Ils sont catholiques ? » ?»« Tu pourras rentrer à la maison le dimanche, ils y consentent. » Ma mère plaça ses mains autour des navets, les fit glisser, ramassant au passage une partie du chou et des oignons, puis elle laissa tomber le tout dans une marmite d'eau qui attendait sur le feu. Fini les belles parts de tarte que j'avais arrangées avec tant de soin. Je grimpai l'escalier pour aller trouver mon père. Il était assis sous les combles, près de la fenêtre. La lumière effleurait son visage. Faute de mieux, c'était sa façon de voir maintenant. Mon père était artiste céramiste. Ses doigts étaient bleus à force de peindre Cupidon, damoiselles, soldats, bateaux, enfants, poissons, fleurs ou animaux sur des carreaux blancs avant de les vernir, de les passer au four et de les vendre. Un jour, le four avait explosé, le privant et de ses yeux et de son commerce. Il avait eu de la chance. Deux de ses compagnons étaient morts. Je m'assis près de lui et lui pris la main. « J'ai entendu, » dit-il, sans me donner le temps d'ouvrir la bouche. « J'ai tout entendu. » Ses oreilles compensaient des yeux qui n'y étaient plus.
Vous avez peut-être reconnu, si vous êtes amateur de livres audio, la voix de la comédienne Isabelle Carré lisant un extrait de « La jeune fille à la perle » de Tracy Chevalier, qui, je vous le rappelle, est un livre qui a été censuré dans les écoles floridiennes. C'est d'ailleurs pour ça que nous en parlons maintenant, puisque la chanteuse Pink, si vous venez de vous joindre à nous, eh bien, s'est amusée follement, elle qui adore la littérature, à déverser des milliers de bouquins parmi tous ceux qui sont interdits dans les écoles floridiennes, dont La jeune fille à la perle et La servante écarlate, dont on va tout de suite écouter un extrait. Bon, vous connaissez sûrement l'histoire, hein, c'est la chute drastique de la fécondité chez les femmes. Alors il y a des fanatiques religieux qui fondent une espèce de république, et ils vont utiliser certaines femmes encore fertiles dont des fraides qu'on va vêtir de rouge, qu'on va appeler des servantes écarlates, et elles vont donner leur corps au nom de la fertilité et vivre dans des conditions monacales épouvantables. Voici un extrait, c'est une exclue de chez Audible et c'est lu par Sarah-Jeanne Labrosse.
Ne Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux de paniers de basketball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public. Et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrées de chewing-gum et de parfums que dégageaient les jeunes spectatrices. Que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon. Puis parée d'une unique boucle d'oreille. Les cheveux en épis, striés de vert. On avait dû y organiser des balles. Leur musique y traînait encore. Palimpseste de sons non entendus. Un style succédant à l'autre. Courant souterrain de batterie. Plaintes désespérées. Guirlandes de fleurs en papier mousseline. Diables en carton. Boules de miroir pivotantes. Poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver et qui n'était jamais comme ses mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui se passait sur le siège arrière, dans le parking, ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ce don de l'insatiabilité? Il était dans l'air, et il y demeurait, comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans les lits de camp qui avaient été disposés en rangée, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton, comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous plions soigneusement nos vêtements et les disposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était en veilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet, pourtant, même à elle, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel. Et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, deux fois par jour, à faire deux par deux le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillon de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous. Quelque arrangement conclu, quelque marché, nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tantes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, June.
Belle lecture de Madame Labrosse, Sarah Jeanne, lecture de ce chef-d'œuvre de Madame Atwood, Margaret Atwood, La servante écarlate. Le docteur Jivago. Quand c'est sorti au cinéma, les amis, j'avais quoi? J'avais 10 ans. Je pense bien que c'était la première fois que j'allais au cinéma pour voir autre chose que Blanche-Neige ou je sais quel Disney. Le choc, vous dites, ou je l'ai trouvé tellement beau, le Yuri, incarné par Omar Sharif, la blondeur de Lara, les paysages glacés, les troïkas, les balles, les costumes, le charme, l'amour, les chemins de neige, les chevaux, toi, les batailles, le sang sur la neige, on voyait rarement ça. Et puis la musique de Maurice Jarre. Alors, il y a eu d'abord le livre de Boris Pasternak, puis le film dont je viens de parler, de David Lean en 65. Et voilà que ce chef-d'œuvre est enfin enregistré en audio chez Gallimard dans la collection Écoutez lire, lu par Johann Gasiorowski. Alors on va écouter un extrait de Le docteur Jivago. Thank you.
Sarah fut réveillée par un coup à la fenêtre. Une lumière blanche et surnaturelle voletait par la cellule. Yura, en chemise, courut à la fenêtre et colla sa figure à la vitre froide. Dehors, il n'y avait ni route, ni cimetière, ni potager. La bourrasque faisait rage, l'air fumait de neige. À croire que la tempête avait remarqué Yura et que, consciente de faire peur, elle jouissait de l'impression produite. Elle sifflait et hurlait, et cherchait par tous les moyens à attirer l'attention du garçon. Le ciel déroulait à l'infini, coupon après coupon, une étoffe blanche qui tombait sur la terre en l'emmaillotant de bandelettes funéraires. La bourrasque était seule sur la terre. Rien ne rivalisait avec elle. La première impulsion de Yura, descendue du rebord de la fenêtre, fut de s'habiller et de sortir pour essayer de faire quelque chose. Il avait peur que les choux du monastère, engloutis, ne puissent plus être arrachés, et aussi que la neige n'ensevelisse tout à fait sa mère. Alors elle ne pourrait pas résister, elle s'en irait encore plus profond sous la terre, plus loin de lui. Cela se termina là encore par des larmes. L'oncle se réveilla, lui parla du Christ et le consola. Puis il bâilla, alla à la fenêtre et resta pensif un moment. Ils commencèrent à s'habiller. Le jour venait. Chapitre 3. Tant que sa mère avait vécu, Yura avait ignoré que depuis longtemps son père les avait abandonnés, qu'il allait de ville en ville, en Sibérie et à l'étranger, dans les désordres et la débauche, dispersant aux quatre vents les millions de la famille. On racontait à Yura qu'il était à Saint-Pétersbourg, ou bien à une foire, souvent celle d'Irbit. Sa mère était de santé fragile, on diagnostiqua une phtisie. Pour se soigner, elle fit des séjours dans le sud de la France et l'Italie du Nord, où, une fois ou deux, elle prit avec elle le petit garçon. C'est ainsi, dans la confusion et avec mille questions sans réponse, que s'écoula l'enfance de Yura, souvent laissée à la garde d'étrangers, jamais les mêmes. Il s'était habitué à ces vicissitudes, et dans toute cette instabilité, l'absence de son père ne l'étonnait pas. Il avait connu, quand il était tout petit, un temps où le nom qu'il portait était celui de choses les plus variées. Il y avait eu une manufacture, Jivago, une banque, Jivago, des propriétés, Jivago, une façon de nouer et d'épingler sa cravate à la Jivago, et même un gâteau de forme ronde, une sorte de baba au rhum du nom de Jivago. Il y avait eu un temps où il suffisait à Moscou de crier à un cocher de traîneau « Chez Jivago !» comme on aurait dit au diable Vauvert, pour qu'il vous emporte par monts et par veaux à l'autre bout du monde. On se retrouvait dans un parc silencieux. Des corbeaux se posaient sur les branches pendantes des sapins en éparpillant le givre. Leur croassement saccadé emplissait l'air, pareil à un craquement de bois sec. Venus des maisons neuves au-delà de l'allée forestière, des chiens de race traversaient la route. Là-bas s'allumaient des lumières. Le soir tombait. Soudain, tout cela était parti en poussière. Ils étaient devenus pauvres. Chapitre 4. Durant l'été 1903, un tarantas à deux chevaux emmenait à travers la campagne Yura et son oncle à Duplianka, la propriété de Kologrivov, un fabricant de soieries qui était aussi un important mécène. Ils allaient voir Ivan Ivanovitch Voskobojnikov, pédagogue et vulgarisateur populaire. On célébrait Notre-Dame de Kazan. La moisson battait son plein. À cause de la fête, ou parce que c'était midi, il n'y avait pas une âme au champ. Le soleil frappait les bandes de céréales encore sur pied comme des nuques de forçats à demi rasées. Au-dessus des champs tournoyaient des oiseaux. Dans le grand silence, les épis de blé se tenaient au garde-à-vous, tête baissée, ou bien s'entassaient loin de la route en haute meule qui, si on les fixait longtemps, s'animaient telles des silhouettes d'arpenteurs, marchant sur la ligne d'horizon en notant quelque chose. « Et ici ?» demandait Nikolaï Nikolaïevitch à Pavel, employé par la maison d'édition comme gardien et homme à tout faire, qui était installé de biais sur le siège, échines courbées et jambes croisées, pour bien montrer qu'il n'était pas un vrai cocher et ne se trouvait pas là par vocation. « C'est quoi ici ? Des terres seigneuriales ? Ou elles sont aux paysans ?» « Ici, c'est ton maître ?» dit Pavel. «
Musique de Maurice Jarre. Et puis quelques mots encore sur le docteur Jivago. D'abord, vous avez peut-être remarqué que dans le livre, on l'appelle Yura. Dans le film, on l'appelait Yuri Jivago. Petite chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lynn, David Lynn, voulait que ce film soit tourné en Russie, en Union soviétique. Les autorités n'ont jamais voulu à ouvrir leurs frontières, leur territoire. Moralité, le tournage s'est déroulé, je vous le donne en mille, pendant 10 mois, en Espagne. En Espagne, où on lui avait promis, je ne sais pas dans quelle région d'Espagne, on lui avait promis du givre et tout ça. Rien. Ils ont eu un hiver, ils ont enduré un hiver de chaleur épouvantable. Donc, toutes les scènes que vous voyez de givre, de neige, de tout ça, tout a été reconstitué. Et à l'époque, en 1965, c'est quand même incroyable. Quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Alors bon, voilà pour le docteur Jivago. Oh, ça me donne tellement envie de le revoir. Et Mathieu m'y faisait penser, c'est vrai qu'il était tellement long ce film qu'il y avait un entracte. À l'époque, imaginez. Bon, est-ce qu'on a le temps? Je pense que oui, on a le temps pour un petit dernier. Un livre pas facile, je vous le dis, qui s'appelle... La prochaine fois que tu mordras la poussière, de Panayotis Pascot. C'est un livre, l'auteur dit, qui me fait peur. Le processus a été douloureux. Mon père nous avait annoncé qu'il n'allait pas tarder à mourir et je me suis mis à écrire. 3 années au peigne fin, mes relations, mes pensées paranoïaques, mon rapport étrange à lui craché sur le papier. Je me suis donné pour but de le tuer avant qu'il meure. C'est l'histoire de quelqu'un qui cherche à tuer, soi ou le père. Finalement, ça revient au même extrait.
Une phrase sous forme de dernier souffle qui serait la clé pour que tu t'en ailles de moi. Mais tu t'accroches. Tu ne rendras pas ton dernier souffle comme les autres. Tu mourras en inspirant, une grande inspiration, attraper encore un peu plus du monde. Ça, je le sais déjà. Peut-être pardon. Je veux que tu me dises pardon. Je le sens. Je le sais que ça ferait du bien. Je sais aussi que ce ne serait pas nécessaire. Tu n'as jamais fait quelque chose en particulier qui demande le pardon. C'est ça qui est frustrant dans cette histoire sordide. Tu n'as jamais fait quelque chose qui nécessite un pardon. Mais j'en veux un quand même. C'est une question de principe. Tu nous as colonisés. Tu es en nous. Tu es en moi, tout le temps. Tu me ronges et ça me fait chier. Demande-moi pardon. J'en ai besoin. J'ai besoin de ton regard. Pourtant, quand j'étais petit, je dirais 8, 10 ans peut-être, j'avais tellement peur qu'ils meurent, les parents. J'y pensais tout le temps. J'en dormais pas. 3 ans d'insomnie. Ils m'ont emmené chez le psy, carrément. Pour ça, et parce que je disais à tout le monde que je touchais mes tétons pour disparaître. Pourtant, c'est vraiment pas dans notre ADN familial d'être lâche et d'aller parler de ses problèmes à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment elle l'a convaincu de m'y emmener. Quand ça arrivait, mes petites crises d'angoisse, je passais des heures entières, mon petit cul sur le bois bien dur de l'escalier tout sombre. Je descendais les marches une par une sur la pointe des pieds pour m'asseoir sur ma préférée. Je vous jure, si j'y retournais, je pourrais vous la montrer sans hésiter. La marche parfaite. Assez bas pour les entendre ronfler, mais assez haut pour remonter dans ma chambre s'ils se réveillaient. J'avais pas le droit d'en sortir pendant la nuit. Ils me l'avaient interdit. Tant qu'ils ronflaient, ils étaient pas morts. D'ailleurs, j'en voulais à ma mère de pas ronfler assez fort. Si je ne l'entendais pas, j'entrais dans leur chambre, tout doucement, pour pas que ça grince, et j'écoutais. Si je l'entendais toujours pas, je répétais « Maman, 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 mam », jusqu'à ce qu'elle se réveille, calmement, comme toujours. Puis je pleurais un coup. Elle me disait quelques mots et je pouvais remonter. L'escalier était rempli de photos de famille, mais pas de la nôtre. Ils collectionnent les vieux cadres. Il achète des vieilles photos de famille du 19e ou 20e siècle en brocante, les retape et les accroche un peu partout dans la baraque. Des familles de charcutiers, de docteurs, de restaurateurs. C'était l'époque où il fallait forcément faire ce que faisaient tes parents et en plus fallait sourire sur la photo. D'ailleurs, on sentait que c'était nouveau les photos. Ils avaient tous des têtes de cons du genre « on bloque la respiration, on se tient droit et on fixe la machine qui capture les âmes ». Regard fier, victorieux, menton vers le ciel pour les hommes et leurs fils. Regard timide, pas sûr, assise ou courbée, le menton vers le sol pour les femmes et leurs filles. Ça me faisait chier, je crois. Nous, on n'avait aucune photo de notre famille au complet, heureuse, dans un beau cadre. Mais plus de 200 familles qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam nous narguaient avec leur bonheur figé en noir et blanc.
La prochaine fois, tu mordras la poussière. Viens conclure cette émission consacrée au livre audio. Je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir été là. Est-ce que j'ai le temps de dire c'était lu par Gabriel Bismuth, bien-aimé. Salut.